Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Marguerite Caton, Mélanie Chalandon, Corentin Monsoir, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Cette semaine dans Culture Monde, donc, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai prochain, nous allons suivre le combat pour les droits LGBT+ dans le monde, un sujet intime devenu hautement politique. Demain, direction l'Afrique. Mercredi, nous évoquerons le modèle militantiste LGBT+, les modèles d'ailleurs. Et puis enfin, jeudi, on s'intéressera à la culture gay. Mais tout de suite, restons en Europe, où la question des droits des homosexuels est l'un des symptômes des divisions qui traversent le continent. Homophobie, symptôme d'un clivage Est-Ouest en Europe, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Pour 331, contre 225.
Premier mariage, les premières adoptions vont avoir lieu très bientôt, dans une dizaine, douzaine de jours tout au plus. Et donc vraiment, voilà, beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion de voir enfin cette loi entièrement validée.
Je ne vaux pas moins qu'un homme hétérosexuel. Je lui suis égal et cela devrait être enfin acté. Ça l'a été et je suis incroyablement heureux. Si je souhaite, je peux aujourd'hui, dans l'un des pays les plus démocratiques au monde, avoir enfin la possibilité d'appeler mon conjoint mon mari.
Si des gens comme ça existent, qu'ils vivent cachés et qu'ils ne s'affichent pas, parce que certains n'aiment pas ça, nous, ça ne nous plaît pas.
La Pologne devrait être propre. Et tout ça, ça vient d'où ? Ça vient de l'Occident qui n'accepte pas ce qui est bon et qui accepte tout ce qui est mauvais.
Des avancées législatives en France ou en Allemagne et des discours homophobes plus à l'est, du côté de la Pologne en l'occurrence. Le 17 avril dernier, Nathalie Loiseau, tête de liste La République en marche aux européennes, sortait L'Europe en BD, un album dessiné pour expliquer aux enfants l'Europe, ses institutions, sa diversité. Une planche a particulièrement créé la polémique. Un petit garçon polonais, il lance cette phrase suivante. Deux garçons qui se marient en Pologne, même pas en rêve. Ce à quoi l'instituteur lui répond. Nous avons des différences, c'est sûr, mais il faut se respecter. La tête de liste La République En Marche, Nathalie Loiseau, a été accusée de relativiser, banaliser l'homophobie en la considérant comme une opinion comme une autre, aussi respectable et acceptable qu'une autre. Cet exemple illustre bien combien aujourd'hui encore l'homophobie est répandue et le rejet des droits des personnes LGBT+, un combat politique brûlant. Alors existe-t-il une géographie de l'homophobie et de la transphobie en Europe? Aurions-nous une Europe occidentale ouverte, progressiste, qui ferait face à une Europe centrale plus conservatrice et hostile aux droits des personnes LGBT+, et comment les sexualités se sont-elles retrouvées au cœur d'une opposition idéologique entre deux Europes irréconciliables? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord ici en plateau à Paris, Arthur Clèche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé au CERSEC. Le CERSEC, rappelez-moi.
C'est le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens.
Et vous êtes l'auteur d'une thèse dont je vais donner le titre, des subjectivités homosexuelles à l'époque soviétique tardive entre solidarité et culture du soupçon. On parlera évidemment de la Russie. Vous avez vécu, je crois, 8 ans en Russie et en Géorgie. On aura l'occasion d'en parler avec nous à Bruxelles, en duplex. Agnès Chetaille, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, chercheuse Marie Curie à l'Université Libre de Bruxelles et vous êtes une spécialiste du militantisme LGBT+ en Pologne. On va en parler. D'abord, je voudrais vous entendre l'un et l'autre, et peut-être je vais commencer par vous, Agnès Chetaille, sur cette récente polémique autour de la BD de Nathalie Loiseau, L'Europe en BD. Qu'est-ce que ça vous semble révéler de la place des questions sur les droits des personnes LGBT+, et peut-être sur les divergences de vues qui peuvent exister aujourd'hui encore au sein de l'Europe?
Alors cette planche et cette BD, effectivement, est intéressante à plusieurs titres. D'abord, ce qui a fait polémique, et à juste titre, c'est le fait que le refus des droits LGBT relèverait d'une culture qui conviendrait de respecter. Donc effectivement, ce serait relatif et ce serait surtout culturel et pas politique. Et je pense qu'on va y revenir. Mais ce que ça dit aussi, quand elle fait dire à un petit garçon, ici, même pas en rêve, c'est que cette culture, elle est homogène et c'est que tout le monde est d'accord. Mmh. Et c'est un peu la perspective qu'on peut avoir souvent sur les pays dits de l'Est. Et justement, c'est quand on commence à les voir comme un bloc et comme des pays de l'Est, c'est le moment où on commence à éventuellement les considérer comme complètement homogènes. Et je pense que c'est aussi ça qui pose problème, parce que c'est des sociétés qui sont divisées, qui sont multiples. Et enfin, ce que ça dit aussi, cette BD, et de façon tout aussi importante, c'est que à l'Ouest, ce seraient des choses qui seraient complètement acquises. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la planche dont il est question, elle prend l'exemple de l'Irlande, alors que justement, l'Irlande, c'est un pays où, par exemple, le mariage, puisqu'il est question de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, a été adopté relativement tard, puisque c'est en 2015. Et en plus, c'est un pays où ça a été adopté par référendum et où il y a 62% des gens qui ont voté pour, et donc aussi presque 40% des gens qui se sont déplacés pour voter contre. C'est la même chose par rapport à la France. On sait qu'au moment où le mariage pour tous est passé en 2013, 60% des gens se déclaraient pour et donc 40% se déclaraient contre. Aujourd'hui, en Pologne, 30% des gens se déclarent pour aussi l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Donc je pense que ce qu'il faut questionner, c'est cette question d'avoir des cultures homogènes et non pas des rapports de force politique à différents endroits.
Il y a évidemment cette essentialisation qui pose problème. Arthur Klesch, peut-être réaction sur ce point aussi. Et puis effectivement, quand on regarde les choses à grands traits et en essentialisant les choses, on a effectivement cette impression que l'Europe serait divisée en deux, avec à l'Ouest une Europe, disons, plus ouverte aux droits des personnes LGBT+, et puis à l'Est des pays, des sociétés beaucoup plus réticentes. Et en même temps, on voit bien que les choses sont pas si simples. Agnès Chataille vient de nous le dire, même en Europe occidentale, on a effectivement des mouvements, et on en sait quelque chose du côté de la France, qui s'oppose évidemment à ces droits. Alors jusqu'où ce clivage Est-Ouest tient-il réellement, selon vous?
Tout d'abord, on peut peut-être revenir justement, rebondir sur ce que dit Agnès Chataille, c'est qu'en 2013, autant en France, il y avait le mouvement du mariage pour tous, autant en Russie, on adopte une loi contre, entre guillemets, la propagande des relations non traditionnelles parmi les mineurs. Donc ça coïncide dans le temps pour des choses complètement opposées. Donc on voit bien que sur le plan législatif, il y a des oppositions fortes. Après, sur le plan sociétal également, évidemment qu'on observe en France et dans d'autres pays une tolérance de plus en plus accrue, mais paradoxalement, on pourrait comparer les effets des législations, notamment par exemple en Russie et en Géorgie, où il y a une législation très libérale, mais des sociétés où une majorité de la population se positionne contre les droits LGBTQI. Et on voit par exemple que en Russie, il y a toute une profusion de discours après la loi sur cette fameuse propagande, et ça a obligé une partie de la population à prendre fait et cause pour les gays et les lesbiennes notamment, notamment l'intelligentsia, alors qu'on l'entendait pas auparavant. Donc il y a un rapport de force qui a lieu, et ça permet de positionner aussi parfois des choses.
On reviendra évidemment sur cette fameuse loi de 2013 dite de propagande homosexuelle, je mets évidemment des guillemets, mais on y reviendra. D'abord, je voudrais qu'on s'intéresse à la Pologne, puisque évidemment la Pologne fait partie de l'Union Européenne, Agnès Chataille, et ça nous intéresse au premier chef. On voit bien qu'en Pologne, Jarosław Kaczyński, qui est l'homme fort du parti Droit et Justice, le PiS, s'en prend assez ouvertement à la communauté LGBT+. Et c'est pas seulement dans les discours, puisqu'il y a quelques jours, il y a une activiste LGBT qui a même été arrêtée par la police, c'est Elżbieta Poltnesna. Est-ce que vous pouvez nous dire qui elle est, ce qu'on lui reproche, et qu'est-ce que son arrestation vous semble révéler de l'évolution de la situation pour les personnes LGBT, pour les militants aussi du côté de la Pologne, Agnès Chataille?
Alors, à ma connaissance, elle est militante surtout à Amnesty International. C'est une membre d'Amnesty International qui fait partie de cette ONG depuis longtemps et qui représente cette ONG. Donc, c'est vraiment une ligne droits humains un peu générale. Et elle a été arrêtée pour possession, en fait, de posters qui avaient été placardés dans la ville où elle habite, où on voit la Vierge Noire de Częstochowa, donc qui est une icône de la Vierge très célèbre en Pologne et très importante dans un certain mythe national polonais, qui a, et le Jésus qu'elle tient également, une forme d'auréole arc-en-ciel autour de la tête. Donc pour ça, elle a été arrêtée. Et ce que ça révèle, c'est qu'on est en plein, et on le savait avant son arrestation, c'est qu'on est en plein moment de repolitisation de l'homophobie, parce que c'est loin d'être la première fois que des acteurs politiques conservateurs, et notamment que ceux-ci, ces acteurs politiques conservateurs-là, notamment le parti Droit et Justice et son chef de file, effectivement, Jarosław Kaczynski, utilisent l'homophobie comme une ressource politique, ou tentent de l'utiliser comme une ressource politique, en attaquant les militants et les militantes LGBT.
Mais dans le cas de cette personne en particulier, est-ce qu'elle est arrêtée parce qu'au fond, avec cette madone auréolée d'un arc-en-ciel, on a là au fond une offense aux convictions religieuses, ou est-ce que de façon un peu plus générale, elle représente au fond une voix critique du gouvernement polonais et que c'est ça qu'on lui reproche ?
Alors c'est un peu des deux, moi je peux pas vous dire pourquoi elle a été arrêtée exactement, mais ce qui est sûr c'est que c'est une conjonction entre le religieux et le politique qui est exactement ce qui est défendu par ces acteurs conservateurs là, et c'est une forme de définition de la nation qui s'appuie sur la religion et qui depuis assez récemment, mais depuis une vingtaine d'années, s'appuie également sur le refus, le rejet de ce qui serait imposé par l'Ouest à travers notamment les droits LGBT, les droits des femmes, etc.
Mais le jour où les affiches ont été découvertes, la droite conservatrice est vraiment montée au créneau. On a parlé d'une horrible profanation. Le ministre de l'Intérieur a assuré que la police se chargerait de cette affaire. Je le cite, « Il ne peut y avoir d'accord pour ce genre de démonstration au nom d'une pseudo-tolérance. » On sent clairement qu'il y a cette campagne politique très forte à l'égard de la communauté LGBT. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment la communauté LGBT s'est retrouvée au fond au cœur de cette campagne, des débats pour cette campagne européenne ? Et d'où vient cette focalisation du pouvoir sur les personnes LGBT? Ça n'a pas toujours été le cas.
Ça n'a pas toujours été le cas, et c'est bien ça qui nous montre qu'il ne s'agit pas d'une culture immuable, mais qu'il s'agit de forces politiques à l'œuvre. Effectivement, moi, ce que j'ai fait, notamment dans le cadre de ma thèse, c'est d'essayer de faire l'histoire de ce rapport de force, l'histoire de l'émergence de revendications portées par des personnes qui se définissaient comme gays, comme lesbiennes notamment, et de quand elles avaient pu accéder à l'espace public ou quand elles n'avaient pas pu, etc. Et on voit bien, comme dans plein d'autres contextes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de voir la diversité et d'aller étudier finement des contextes plutôt que de les considérer comme étant tous les mêmes. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a eu des instrumentalisations diverses dès les années 80 d'ailleurs, sous le communisme, au milieu des années 80. Sur fond d'épidémie du sida dans les pays de l'Ouest, on a vu à la fois une vague de répression des homosexuels avec des arrestations dans les parcs, etc. Et à la fois, le pouvoir a testé l'opinion publique sur l'éventuelle légalisation d'associations homosexuelles qui étaient en train de se fonder et qui réclamaient une possibilité d'exister légalement. Et on voit que le pouvoir communiste a quand même testé ça auprès de l'opinion.
Si on ne regarde pas aussi loin, Agnès Chetaille, parce que je vais revenir évidemment à la période soviétique et post-soviétique, mais si on regarde là sur la période beaucoup plus récente, il y a quelque chose, me semble-t-il, mais vous allez me corriger si je me trompe, qui a poussé d'une certaine manière ce thème-là dans la campagne, c'est cette fameuse charte LGBT+, qui avait été signée en février dernier par le maire de Varsovie. C'est ça qui, d'une certaine manière, enfin, je parle sous votre contrôle, a poussé ce sujet-là, ce thème-là dans la campagne.
Alors vraiment, je veux juste finir sur ce que j'étais en train de dire, parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est le fait que ce sont des questions qui sont instrumentalisées politiquement. Donc dans les années 80, en fait, ce dont on peut faire l'hypothèse, c'est qu'il s'agissait d'essayer de diviser l'opposition avec le mouvement Solidarność qui était né au début des années 80, etc., et notamment par rapport au rôle de l'Église à l'intérieur de l'opposition, que ça pouvait être une stratégie par le pouvoir communiste pour essayer de diviser l'opposition. Dans la période contemporaine, il s'agit de la même chose. Là, je ne pense pas que ce soit le maire de Varsovie, le fait que le maire de Varsovie signe cette charte qui est initié quoi que ce soit. Je pense qu'il s'agit de stratégies des acteurs conservateurs pour essayer de récolter des voix, de décrédibiliser l'opposition, ça a été le cas. Ça c'est arrivé à la fin des années 90, au début des années 2000, dans le cadre de l'adhésion de la Pologne dans l'Union européenne, où des partis politiques, des hommes politiques ont commencé à politiser l'homophobie, à s'emparer de cette question, dans le cadre notamment déjà des élections européennes.
Vous voulez dire rien de nouveau sous le soleil, c'est ça que vous voulez dire?
Cette politisation de l'homophobie qu'on voit dans la campagne actuelle aux élections européennes, elle existe depuis une vingtaine d'années, oui. Cycliquement, elle revient.
Il n'empêche que quand on regarde un peu le paysage médiatique, on voit que cette charte, elle a eu un effet absolument incroyable. Il y a eu une campagne de désinformation terrible qui a déferlé sur le pays. On a parlé de cours de masturbation dans les écoles, on a parlé de sexualisation des enfants dès l'âge de 4 ans. On voit bien que là, il y a eu une opération de communication, une opération médiatique qui a accompagné justement ce fait-là et qui a poussé quand même ce sujet-là vraiment sur le devant de la scène dans cette campagne pour les européennes. Arthur Klesch.
Oui, je voulais réagir peut-être aussi au propos d'Anna Chetaille, c'est-à-dire que pour la Pologne, sur la Pologne et notamment sur la Géorgie, où on voit qu'il y a un fond religieux qui permet d'articuler un discours homophobe qui date en effet depuis plus longtemps qu'aujourd'hui. Et alors qu'en Russie, ce serait le discours étatique qui pourrait s'appuyer, qui pourrait instrumentaliser l'Église, mais qui génère une véritable homophobie d'État. Donc on voit des différences assez importantes dans un espace qui dont l'héritage historique est entre guillemets communiste, et ce qui pose à mon avis des modalités un peu différentes aussi, même dans la manière dont les militants peuvent agir, puisque tout va dépendre de la façon dont le discours homophobe est articulé, selon quel argumentaire.
Alors justement, vous parliez tout à l'heure de la fameuse loi dite contre la propagande homosexuelle, évidemment, je mets des guillemets, c'est une loi de 2013. Je voudrais qu'on entende d'abord Vladimir Poutine justement à propos de cette loi-là. C'est juste avant les Jeux Olympiques de Sochi, et puis on revient tout de suite.
Comment se fait-il que nous ayons une loi qui interdit la propagande gay et que l'uniforme des volontaires ait les couleurs arc-en-ciel ?
Si vous pensez que c'est moi qui ai créé ces uniformes, vous vous trompez. Nous n'interdisons rien, nous ne visons personne, nous ne punissons pas criminellement de telles relations, contrairement à d'autres pays. Alors tout le monde peut se sentir détendu et à l'aise, mais je vous en prie, laissez les enfants tranquilles.
Alors Arthur Klesch, il y a plusieurs choses à voir. D'abord, il faut rappeler peut-être en quelques mots ce qu'il y a justement dans cette loi. Pourquoi est-ce qu'elle est prise ? Quel type d'instrumentalisation politique on a derrière ? Et puis ensuite, on se demandera quelle influence aussi pour l'Europe centrale et pour des pays comme la Pologne, par exemple. On posera la question tout à l'heure à Agnès Chetaille. Mais d'abord, sur la Russie elle-même et cette loi promulguée en 2013.
Donc cette loi promulguée en 2013, elle a eu des antécédents, c'est-à-dire qu'il y a eu des initiatives législatives remontant au début des années 2000, même qui visaient, mais ça n'a pas abouti, hein, à repénaliser l'homosexualité, qui a été dépénalisée en 1993, donc 2 ans après la chute de l'URSS. Et donc il a fallu attendre un durcissement du pouvoir, et notamment la seconde par moitié des années 2000, où, dans un rapport de force engagé avec des militants LGBTQI par rapport à la première Gay Pride de Moscou de 2006, un discours homophobe qui s'articule et qui justement prend des déclinaisons beaucoup plus politiques qu'auparavant, puisque le premier discours, c'était sûrement un discours prétendument moral, c'est-à-dire il s'agit d'affaires privées, intimes. Et donc tout un combat s'engage. En province, des initiatives, sans doute dirigées de Moscou, vont conduire à la condamnation de la propagande. Donc je cite, hein, mais ils emploient clairement le terme homosexuel. Oui, oui. Et ce qui aboutit à Saint-Pétersbourg en 2011, alors que c'était une ville qui était une des villes la plus ouverte, la plus européenne. De villes russes à la condamnation donc de la cette soi-disant propagande de l'homosexualité, et le pouvoir, voyant que ça a pu marcher à Saint-Pétersbourg, la loi a pu être enfin fédérale en 2013, et évidemment elle joue sur un amalgame entre pédophilie et homosexualité, sur un discours aussi d'innocence en fait, pour affirmer une forme d'identité russe, mais aussi soviétique, selon laquelle en fait il n'y aurait pas eu d'homosexualité entre guillemets même à l'époque soviétique, et qui voudrait en fait développer une forme de défense en fait des enfants vulnérables, etc., qui serait la proie de pédophiles et d'homosexuels ont créé cet amalgame-là qui d'ailleurs depuis fait floresse. C'est-à-dire que récemment encore, même à la télé, les personnes ne savent pas exactement de quoi il s'agit, hein, cette loi. C'est que beaucoup de lapsus ont été dits par des représentants politiques selon lesquels voilà, cette loi est censée protéger les enfants de la pédophilie. Donc il y a un flou dans les esprits qui est assez troublant.
Et évidemment voilà. Entretenu par le pouvoir. Agnès Chataille, jusqu'où peut-on dire que l'hostilité d'une partie de l'opinion polonaise et plus généralement de l'Europe centrale est le résultat de l'influence russe sur ce sujet-là, Agnès Chataille?
Alors, à mon avis, extrêmement peu. Ce qui est intéressant, particulièrement dans le cas polonais, mais que de beaucoup de pays d'Europe centrale, je pense également, c'est que l'opinion est extrêmement anti-russe, en grande majorité, oui. Notamment les acteurs politiques dont on parle, le Parti Droit et Justice, etc., est extrêmement anti-communiste, anti-russe. Jarosław Kaczynski lui-même a entretenu beaucoup l'idée d'un complot dans la mort de son frère en 2010 dans un accident d'avion.
Derrière lesquels seraient les Russes?
Exactement. Donc, il n'y voit absolument pas d'influence. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut se demander pourquoi dans des pays qui ont des histoires aussi différentes, parce qu'entre la Russie et la Pologne, les histoires sont absolument différentes. Le soviétisme et le type de socialisme réel qui existait en Pologne sont quand même extrêmement différents. Il y a beaucoup, beaucoup de différences. Et pourquoi, à travers ces différences, il y a un point commun qui est ce discours où ce serait imposé par l'Ouest. Et c'est aussi là qu'il faut réinterroger, à mon sens, l'image que l'Ouest se donne de lui-même et l'image que l'Ouest donne de l'Est.
Mais justement, vous parliez tout à l'heure d'essentialisation, on est au cœur de cette question-là, parce que quand on regarde la situation du côté de l'Europe occidentale, on voit qu'il y a effectivement des droits peut-être plus avancés pour les personnes LGBT, assez clairement, mais il y a aussi des mouvements très forts pour s'opposer à ce progressisme. On l'a vu en France avec la Manif pour tous, avec le mouvement Sens commun qu'il y a derrière. Alors pourquoi, depuis la Pologne, on a l'impression que cette Europe de l'Ouest est aussi favorable aux droits des personnes LGBT et qu'on ne voit pas ces résistances conservatrices qui pourtant sont bien là?
Alors, je ne sais pas si c'est seulement depuis la Pologne qu'on ne les voit pas. Je pense qu'en France, on aime bien ne pas les voir aussi. Je pense qu'il faut rappeler non seulement le poids numéraire et politique, comme vous venez de le faire, de la Manif pour tous. Il faut aussi rappeler l'abandon de l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes, le piétinement des droits des personnes trans et intersexes, la faiblesse des institutions de lutte contre les discriminations, sachant que la ALDE a été dissoute en 2011 et que depuis, il n'y a pas d'organisme, à part le défenseur des droits, qui est vraiment... là pour ça. Je pense que c'est intéressant aussi, par exemple, de prendre comme exemple les propos récents de Pierre Palmade sur la différence entre des gays qui feraient partie d'un milieu et des homos qui seraient hors milieu. Et c'est des propos qui sont sûrement un peu caricaturaux, mais qui nous rappellent aussi que en France, aujourd'hui, coexistent de nombreuses façons de vivre des pratiques et des identités homosexuelles. Et c'est ce que disent toutes les études sur la sexualité en France. Seule une petite partie des personnes ayant des pratiques avec des personnes de même sexe endossent des identités gays et lesbiennes, par exemple, parce que tout le monde n'est pas non plus en mesure de le faire. Tout le monde n'a pas envie de le faire, mais tout le monde n'est pas en mesure de le faire parce que c'est des sociétés qui sont moins libérées que ce qu'elles veulent bien penser. C'est ça que je veux dire. Comme les sociétés de l'Est sont sûrement moins réprimées qu'on veut bien le penser.
Arthur Klesch, on sait que en Russie, les mouvements nationalistes alimentent, nourrissent assez largement ce sentiment homophobe. Vu d'ici, on a l'impression, on se dit que Poutine est un nationaliste. Mais quand on regarde les choses du côté de la Russie, c'est loin d'être le cas. Il a même été longtemps où finalement Poutine était le meilleur ennemi, précisément, des courants des mouvements nationalistes. Est-ce que cette loi votée en 2013 contre la propagande homosexuelle, je remets des guillemets évidemment une fois de plus, c'est aussi une manière pour Poutine de s'allier d'une certaine manière ces mouvements nationalistes?
Oui, oui. Enfin, sur l'échiquier politique russe, Poutine est centriste, hein, tout est relatif.
Absolument, absolument.
Et oui, c'est une manière, mais même...
voire libérale, hein, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu du côté de la Russie. On a beaucoup traité, en tout cas dans les sphères nationalistes, on disait de Poutine que c'est un libéral.
Oui, tout à fait. Mais je pense, voilà, et ce terme de relation non traditionnelle et de propagande lui permet de... Très habilement formulé, parce qu'à la fois ça renvoie à un discours en fait de violence qu'a imposé, c'est-à-dire la propagande, et qui renvoie aussi même à un rapport très ambigu à l'URSS, C'est-à-dire qu'en même temps, ça sert de rebutoir, ce terme de propagande. Et relation non traditionnelle, c'est comme s'il existait une tradition innocente de l'hétérosexualité en Russie, et seulement cela. Donc, à la fois, il se positionne au creux de deux discours, c'est-à-dire qu'il n'appelle pas à un retour à l'URSS non plus, hein, et en même temps, il essentialise une identité russe, non pas nécessairement directement à partir d'un discours religieux, je reprécise parce que c'est pas le cas dans d'autres pays de l'espace post-soviétique, et c'est très important, me semble-t-il, de le préciser. Il me semble que voilà, ce moment-là est capital de bien comprendre que ces relations non traditionnelles, comme il les appelle, c'est une manière de disqualifier un héritage occidental et de réaffirmer une identité russe qui serait purement, entre guillemets, hétérosexuelle.
Et d'une certaine manière, il suit l'opinion. Moi, il y a une étude qui m'a frappé, Arthur Klesch, je voudrais vous en donner les résultats, qui avait été réalisée par le centre Levada, qui montrait qu'en Russie, 83% des Russes considèrent l'homosexualité comme condamnable. C'est 7 points de plus qu'en 2008, c'est 15 points de plus qu'en 98, où les mêmes questions avaient été posées. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, d'où vient cette homophobie, et je mets des guillemets, mais quasi culturelle, pardonnez-moi l'expression, mais vous comprenez ce que je veux dire et vous allez essayer de me détailler les choses du côté de la Russie. Comment expliquer qu'elle soit si répandue, si diffuse, et pourquoi est-ce qu'elle progresse?
L'homophobie n'est pas un phénomène nouveau en Russie ou dans l'espace post-soviétique. C'est-à-dire qu'au sortir de la perestroïka, les deux populations les plus zonies, les moins appréciés par la population, c'était les skinheads, les extrêmes droites, paradoxalement, et les homosexuels. Donc on regarde dans les sondages de l'époque où une majorité des Russes se prononçait pour le terme de liquider, pour les liquider. C'était un discours particulièrement violent, et au sortir de la perestroïka, alors que c'était un moment donné où les Russes étaient même beaucoup plus pro-occidentaux qu'aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, durant les années 90, on constate une tolérance accrue envers l'homosexualité, notamment de la part des générations les plus jeunes, et jusqu'à la seconde moitié des années 2000.
D'accord. Donc, par exemple, quand en 93, c'est ce que vous nous disiez, on dépénalise du côté de la Russie l'homosexualité, ça correspond aussi à un mouvement de société quand même.
Oui, tout à fait, mais en fait, en réalité, c'était surtout pour coller à des critères d'intégration au Conseil de l'Europe, notamment par Eltsine. Ça n'a pas donné lieu à un débat public sur l'homosexualité. Ce débat public sur l'homosexualité a eu lieu, paradoxalement, en 2013, à l'occasion de cette fameuse loi sur la soi-disant propagande, ce qui, en retour, a provoqué, ce que je vous disais au début d'émission, des positionnements plus libéraux de la part d'une même inattendue d'intelligentsia ou de dits libéraux de l'échiquier politique russe. Voilà.
Agnès Chataille, en 30 ans, la Pologne a évidemment connu un profond glissement de son centre de gravité, passant d'une influence extrêmement forte de Moscou à l'époque soviétique à l'adhésion à l'Union européenne en 2004. En quoi ce glissement géopolitique a eu une influence sur la manière d'appréhender ces questions LGBT? Est-ce que le fait d'avoir épousé les valeurs européennes, en tout cas en théorie, a eu un effet, ou est-ce que finalement la société est restée peu ou prou sur les mêmes positions sur ces questions?
Mais alors, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de revenir sur cette question de est-ce que c'est un phénomène culturel ou est-ce que c'est un phénomène politique. Vous venez de parler de phénomène quasi-culturel en Russie, tout en montrant que ça progressait.
Je me suis permis de mettre des guillemets parce que
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, on peut dire que l'homophobie sociale, elle est culturelle, mais alors à ce moment-là, elle est culturelle partout. Elle n'est pas plus culturelle dans certains pays et moins dans d'autres. Après, les dynamiques politiques ont un rôle extrêmement important, et encore une fois, partout. Et ce qui est intéressant, quand on voit aussi que, à la fois, l'homophobie déclarée dans des sondages, etc., il faut relativiser aussi, on ne parle pas de pratique, on parle de déclaration, mais elle peut reculer, et puis elle peut augmenter de nouveau. Et c'est aussi ça qui montre bien que ça dépend de dynamiques historiques, puisque ça change dans le temps. Et je pense qu'il faut, c'est une des choses qu'il faudrait essayer d'arrêter de systématiser systématiquement pensé, c'est avec cette idée de linéarité et de retard et de progrès. En gros, il y aurait des sociétés sur une ligne qui serait progressiste et d'autres qui seraient en retard et qui seraient en train de rattraper. On voit bien au niveau
social... En revanche, pardon, Agnès Chétail, de vous couper, mais quand même, quand on regarde les choses du point de vue du droit, on peut parler d'avancée ou de recul.
Bien sûr, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à la fois en termes d'opinion, mais aussi en termes de droits, il faut jamais oublier qu'on peut perdre des droits qui sont acquis. Mmh. Et ça a été le cas, par exemple, en Pologne, après le changement de régime, par rapport au droit à l'avortement, au droit d'accès à l'IVG pour les femmes. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier que les Polonaises avaient accès à l'avortement bien avant les Françaises, depuis 1956, et qu'elles ont perdu ce droit après le passage à la démocratie en 1993. Donc il faut jamais oublier que les reculs sont possibles.
D'accord. Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est que, en fait, l'adhésion à l'Union européenne ne s'est pas accompagnée d'une évolution en termes de droits pour les personnes LGBT, voire même au contraire. Il y a eu plutôt un recul.
Alors, non, pas exactement. Là, je parlais vraiment du droit à l'avortement, oui. Et ça préexistait l'adhésion. Oui. Alors, je peux parler plus précisément des droits LGBT par rapport à l'adhésion. Ce qu'on voit, donc, j'ai parlé des années 80 avec une sorte de tentative, mais c'est allé tellement vite, puisqu'en 89, déjà, le régime changeait. Donc, une sorte de tentative d'instrumentalisation qui, de tous les cas, n'a pas fonctionné. Ce qui est intéressant, c'est qu'après le passage à la démocratie et la transition au capitalisme, il faut jamais l'oublier, il n'a pas été possible pour un mouvement LGBT de se constituer, de vraiment regrouper des ressources et d'émerger dans l'espace public. Et là, les acteurs conservateurs ont endossé les positions de l'Église et ont bloqué notamment l'inclusion de l'orientation sexuelle dans la nouvelle constitution comme motif de discrimination, mais de façon complètement silencieuse. Donc un peu comme Arthur le disait pour la Russie pour 1993, il n'a pas été question à ce moment-là de ça dans l'espace public, parce qu'il n'y avait pas assez de ressources pour vraiment l'amener dans l'espace public. Donc c'est seulement au début des années 2000, dans le contexte de l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, que ces questions ont été portées publiquement. Et ce à quoi on a assisté, c'est aussi ce que Arthur, j'ai l'impression, décrit pour la Russie en 2013. C'est une forte polarisation avec à la fois, encore une fois, des acteurs conservateurs qui se sont emparés de ça de façon extrêmement puissante. Et c'est aussi là, paradoxalement, une conséquence de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, puisque c'est dans ce contexte-là qu'ils ont pu faire une sorte de convergence entre nationalisme et refus des droits LGBT pour défendre la souveraineté de la Pologne, etc. Mais de l'autre côté, une partie de la gauche qui s'est vraiment emparée de ces questions. Et moi, je me rappelle entre 2005 et 2007, quand j'étais en Pologne et que je travaillais sur ce mouvement et qu'il y avait un fort mouvement social, puisque c'était déjà PiS qui était au pouvoir, c'était déjà Jarosław Kaczyński qui a été Premier ministre à ce moment-là. Et tout le mouvement social était vraiment... Le mouvement LGBT était le fer de lance du mouvement social, et les questions LGBT, je trouvais, étaient beaucoup plus intégrées au discours de la gauche qu'en France, par exemple. Et c'était beaucoup plus central. Par contre, la gauche était beaucoup plus faible. Donc, c'est des choses qu'il faut analyser.
Et aujourd'hui, justement, cette opposition, comment elle s'engage sur ces thèmes-là? Il y a évidemment une figure politique montante en Pologne dont on parle beaucoup, c'est Robert Biedron, qui est un député qui revendique son homosexualité, qui est un militant de la cause LGBT. D'ailleurs, il est candidat pour les européennes. Je crois qu'il est crédité de 10 à 15%. Comment lui, est-ce qu'il peut, au fond, faire avancer cette cause-là? Est-ce qu'il a les clés pour enclencher une forme de dynamique de changement sur ces thèmes-là?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été un acteur majeur dans les dynamiques de changement que je viens de décrire au début des années 2000, puisqu'il a fondé l'association principale maintenant polonaise LGBT qui s'appelle Campania Przeciw Homofobii, la campagne contre l'homophobie. Il l'a fondée en 2001, il l'a co-fondée avec d'autres militants, mais il est devenu très vite son président et son symbole et le représentant de cette association dans les médias. Donc effectivement, en 2011, il est devenu député. En 2014, il est devenu maire d'une grande ville. Et aujourd'hui, il a fondé son propre parti qui s'appelle Wiosna, qui veut dire printemps. Et il est effectivement crédité d'une 10% d'intention de vote aux élections européennes. Ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, c'est presque celui qui parle le moins, enfin en tout cas, il parle beaucoup moins de questions LGBT que Jarosław Kaczyński, qui est obsédé par ça, parce que c'est vraiment, il utilise ça pour essayer d'avoir de la crédibilité et de montrer qu'il se bat contre des attaques, etc. Robert Biedron, il est connu comme personne gay, militant gay, il n'a pas besoin vraiment de développer ça.
Arthur Klage, du côté de la Russie, est-ce que la gauche, en tout cas ce qu'il en reste, la gauche russe, s'empare de ce thème-là?
Je ne sais pas si on peut l'appeler des tours la gauche. Puis en Russie, malgré le phénomène de censure, le fait que ce soit un régime autoritaire, il y a toute une branche de médias qu'on appelle libéraux. Et qui, en effet, prennent fait et cause sur ces questions LGBTQI et de manière très très explicite, hein, notamment une chaîne de télévision qui s'appelle Dojd ou bien d'autres. On l'a vu aussi récemment, puisque depuis 2 ans, on assiste à des persécutions de gays et de lesbiennes en Tchétchénie. Ces persécutions ont été relayées de manière abondante par et par la presse et par les chaînes de télévision et de radio dites libérales. Donc, en effet, c'est un des thèmes qui polarise et pour le coup, c'est vraiment nouveau puisque ces mêmes milieux libéraux entre guillemets étaient homophobes voire revendiquaient une forme d'homophobie dans les années 90 et se désintéressaient voire se moquaient de ces questions qu'ils considéraient eux-mêmes comme des questions occidentales.
On est avec vous, Arthur Klage et Agnès Chetaille, autour de cette question de l'homophobie, symptôme d'un clivage Est-Ouest en Europe dans cette série consacrée aux droits LGBT+. On va prendre dans un instant la direction de l'Italie. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h36 minutes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Cette nuit, alors que je m'endormais avec mes deux enfants, je me suis demandé... Qui, en 2019, en Italie ou dans le reste du monde, est dérangé par ces deux mots, maman et papa? S'il y en a, c'est leur problème, pas le mien. C'est incroyable. Je ne suis pas ici pour changer quoi que ce soit. Je suis ici pour protéger notre futur.
Voilà, cette voix que vous entendiez à l'instant, c'était celle de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, qui était présent lors du rassemblement annuel du Congrès mondial des familles, un congrès qui s'est déroulé dans une ambiance tendue, avec des militants LGBT, avec des militants nationalistes qui se sont fait face. On va parler de l'Italie, mais bien au-delà de l'Europe en général. Bonjour David Paternotte.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université libre de Bruxelles et vous avez dirigé un ouvrage collectif dont je vais donner le nom « Campagne au pluriel anti-genre en Europe, des mobilisations contre l'égalité » qui est paru aux presses universitaires de Lyon. C'est un livre dans lequel vous regardez un petit peu ces nombreux mouvements anti-genre. En Europe, une douzaine, vous essayez de comprendre comment ils se forgent, comment ces mobilisations peuvent aussi éventuellement traverser les frontières, comment tout ça s'articule avec les angoisses aussi identitaires, nationalistes et populistes. Si on commence peut-être avec le cas de l'Italie, David Paternotte, est-ce que d'abord peut-être nous expliquer en quelques mots très rapidement ce qu'est ce congrès national des familles et comment est-ce que vous interprétez la présence du ministre italien de l'Intérieur à cette dernière édition, David Paternotte?
Alors c'est amusant que vous commenciez par le Congrès mondial des familles, puisque j'étais dans la salle en train de faire du terrain pendant que Salvini parlait. Et donc en fait c'est une association mondiale qui a été fondée dans les années 90 par des militants russes et des militants des États-Unis et qui vise, leur discours c'est la promotion de la famille, mais il faut entendre la famille traditionnelle, et qui donc en fait propose un certain nombre de mesures contre la reconnaissance des droits LGBT, contre la reconnaissance des droits sexuels et reproductifs, l'avortement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une organisation qui se réunit annuellement dans un pays du monde. Et depuis quelques années, on voit un soutien de plus en plus important d'un certain nombre de régimes autoritaires ou en voie de le devenir. Donc il y a 2 ans, la conférence a eu lieu à Budapest. Elle était ouverte par Viktor Orban. Cette année-ci, elle avait lieu à Vérone, qui est un des bastions de la Ligue du Nord. Et cette conférence ressemblait véritablement à un meeting de la Ligue du Nord avec 3 ministres du gouvernement italien, dont Matteo Salvini lui-même, dont vous avez passé un extrait juste à l'instant.
Est-ce que vous diriez que l'ampleur des mouvements anti-genre en Italie a progressé ces dernières années? À quoi est-ce que vous le... si c'était le cas, à quoi est-ce qu'on pourrait le relier? Et d'une façon générale, est-ce qu'il y a dans l'Italie... est-ce que l'Italie a au fond une place à part dans ces mouvements anti-genre construits un petit peu partout en Europe?
Mais je dirais plutôt que l'Italie est un cas particulièrement emblématique, qui est intéressant aussi pour la discussion d'aujourd'hui, parce qu'il montre bien, il aide à relativiser la distinction Est-Ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la Pologne ou la Hongrie ou la Russie pour parler rapidement. Donc ce qu'on a vu, c'est à la fois un cas où ces discours sont là de manière très ancienne, puisque bon, c'est des discours produits par le Vatican et un certain nombre d'intellectuels proches du Vatican.
On va y revenir dans un instant, hein, oui. Vous inquiétez pas.
D'accord, mais,
on
voilà, mais donc sur ce ça circule assez tôt en Italie. Par contre, ça ne va se traduire par des mobilisations, des manifestations que vers 2013-2014, donc après le cas français. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie importation des campagnes françaises en Italie. Donc on va voir les posters français de la Manif pour tous traduits simplement en italien. Le mouvement italien va s'appeler au début la Manif pour tous Italia. Et progressivement, par contre, c'est un mouvement qui va avoir un vrai impact politique, c'est-à-dire qui naît pour protester contre un projet de loi sur l'homophobie qui ne verra pas le jour. C'est aussi un mouvement qui va permettre de réduire fortement la portée de la loi qui reconnaît les unions de même sexe. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la Ligue du Nord, c'est un mouvement, et ça c'est ce qu'on voyait à Vérone, qui a un accès direct au gouvernement italien. Mmh. Le ministre de la Famille est proche de ces mouvements-là, et donc on a là la possibilité de mettre un agenda en œuvre, comme c'est le cas aujourd'hui en Hongrie ou en Pologne.
Ce que vous expliquez, David Paternotte, dans votre livre, c'est que très souvent, les militants des campagnes anti-genre se considèrent comme des défenseurs de la démocratie. De leur point de vue, en tout cas, ils sont les seuls à combattre une forme de pensée unique qui envahirait l'espace public, une forme de totalitarisme qui s'imposerait à tous. Donc, les anti-genres se pensent comme des gardiens de la liberté et de la démocratie, ce qui leur donne évidemment le droit de peser pour limiter les droits des personnes LGBT. Qu'importe que l'on s'en prenne aux libertés individuelles, puisque c'est au nom de la démocratie, c'est au nom de l'intérêt général. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les mouvements anti-genre en Europe.
Oui, donc on a un discours victimaire qui est extrêmement présent, une stratégie aussi d'un certain nombre de ces groupes qui sont en général connectés à des organisations religieuses ou politiques puissantes, c'est de se présenter comme des groupes de citoyens. En général, ce qu'ils appellent les citoyens inquiets, des collectifs de parents, ce genre d'organisation, qui veulent faire part de leur incompréhension, de leur attachement à certaines valeurs. Et souvent, ça va avec l'idée de, effectivement, aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ce qu'on veut parce que, par exemple, on ne pourrait plus tenir des propos de haine ou des propos discriminatoires. Et c'est aussi souvent lié à la défense de la liberté religieuse, c'est-à-dire cette idée qu'on entend de plus en plus dans ces milieux-là, qu'il est difficile aujourd'hui d'être chrétien en Europe et de défendre les valeurs chrétiennes dans l'espace public, par exemple, en s'opposant à l'avortement ou aux droits LGBT. Et alors, ce qui est important dans le contexte, par contre, Est-Ouest, sur ces questions-là, c'est que souvent, on fait référence au contexte, quand on parle de totalitarisme, au contexte marxiste, on parle parfois de marxisme culturel, et évidemment, ce, c'est un argument qui résonne de manière tout à fait particulière en Europe centrale orientale.
Et lorsqu'on regarde, David Paternotte, et puis je ferai réagir nos invités, quand on regarde ces mouvements anti-genre en Europe, est-ce qu'on peut établir une corrélation entre l'état de santé de la démocratie des pays en question et la force, la puissance de ces mouvements anti-genre?
Je pense pas qu'il y ait une corrélation immédiate. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces mouvements ont rencontré, à des dates variables suivant les pays, les mouvements populistes ou d'extrême droite qui se mobilisent de plus en plus aujourd'hui en Europe. On le voit avec Matteo Salvini. Tous les spécialistes de l'Italie vous diront que Salvini n'avait pas un intérêt très prononcé pour les questions morales ou familiales jusqu'à une date récente. Par contre, il a compris l'intérêt de se servir de ces questions-là dans son accession au pouvoir. Et donc, ce qu'on voit par contre comme corrélation très claire, c'est que quand les différents partis d'extrême droite, populistes et autres arrivent au pouvoir en Europe, ça fait partie aujourd'hui de l'agenda qu'ils mettent en œuvre.
Vous restez avec nous, hein. J'ai encore quelques questions à vous poser, mais je voudrais entendre peut-être Agnès Chetaille et Arthur Clage. On va commencer par Bruxelles. Agnès Chetaille.
Ce qui est intéressant dans la question des mouvements anti-genre, c'est effectivement une sorte de convergence transnationale en Europe de différents mouvements. Dans le cas de la Pologne, en fait, toute cette politisation et ce contre-mouvement qui s'est opposé au mouvement LGBT, au mouvement féministe à partir du début des années 2000, il préexiste la rhétorique internationale de l'opposition au gender, à l'idéologie du genre, à la théorie du genre, comme on a dit en France. Et en fait, il s'est greffé là-dessus à un moment avec des circulations internationales. Donc c'est bien. On voit que c'est des dynamiques locales aussi qui vont aller s'articuler à un moment et que c'est bien des dynamiques internationales que je pense qu'il faut absolument relier aux évolutions politiques générales en Europe, mais aussi économiques.
Arthur Clash.
Moi, je voulais juste réinterroger ce clivage Est-Ouest, notamment peut-être en donnant quelques éléments pour avoir une dimension historique, notamment ce que disait David Paternotte sur la sur le marxisme auquel il faisait référence, juste préciser que la Russie, et pas seulement la Russie, mais aussi la Géorgie, enfin l'Union soviétique, a été l'un des premiers pays à dépénaliser l'homosexualité, après la France. Donc ça a été repénalisé sous Staline. Donc ça permet
dans les années 1920.
Voilà, tout à fait. Donc ça nous permet de relativiser, de pas dire que l'homophobie est culturellement russe ou géorgienne. Le deuxième moment que je voulais évoquer, c'était que j'ai essayé de le dire auparavant, mais je vais essayer d'être plus clair, c'est-à-dire que il y a une législation très très gay-friendly en Géorgie, ce qui ne veut pas dire que la population géorgienne soit moins homophobe que la population russe. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment s'interroger sur l'effet immédiat, sur le court terme et sur le long terme de ces législations et des motivations pour lesquelles on les adopte. C'est-à-dire que évidemment la Géorgie adopte cette législation pour intégrer l'OTAN ou l'Union européenne et ça répond aussi à des aspirations d'une partie de la société géorgienne, tandis que la politique de la Russie n'est pas du tout la même. Et les réactions, ça sera. Je reprends l'exemple de la Géorgie qui, à mon avis, est important parce que l'État est beaucoup moins fort que l'Église et c'est l'Église qui est capable de mobiliser 20 000 personnes en 2013, ce qui est impossible. L'homophobie ne mobilise pas tant que ça en Russie. 20 000 personnes dans les rues à Tbilissi contre 50 militants LGBTQI. Alors que l'État géorgien adopte une législation même plus libérale que certains pays européens. Donc je pense qu'il faut vraiment relativiser ce clivage à cette
situation. C'est entendu, le message est passé. David Paternotte, faisons aussi un peu d'histoire du côté de l'Europe. Vous rappelez dans votre livre comment émerge le concept d'idéologie du genre, à savoir à la fin des années 90, à la suite des conférences onusiennes de 94 au Caire et de 95 à Pékin sur la reconnaissance des droits sexuels et reproductifs, lorsque le Vatican va échouer à contrer cette reconnaissance de ces droits au sein du système onusien. Alors on commence à entamer une réflexion avec des intellectuels catholiques et c'est là qu'émerge ce concept d'idéologie du genre. Et à partir de cet instant, David Paternotte, comment se diffuse ce concept d'idéologie du genre? Comment est-ce qu'il va entraîner dans son sillage la coagulation de forces qui vont finir par mener ces campagnes anti-genre affirmées auxquelles vous êtes intéressé, David Paternotte? Si on refait un peu d'histoire.
Voilà, donc comme vous l'avez dit, ça part du Vatican en réponse à l'ONU. Donc à l'époque, il s'agit pour le Saint-Siège et pour un certain nombre d'intellectuels dans ce cercle-là de comprendre ce qui s'est passé au Caire et à Pékin. Et donc en fait, d'abord, la réponse est de dire, si toutes ces choses que le Vatican n'aime pas sont passées, c'est à cause du genre, de cette théorie, de cette conspiration, même souvent quand on écoute, quand on lit leurs propos, qui expliquerait tous ces nouveaux développements, qui a le grand avantage de mettre ensemble des choses qui, a priori, ne sont pas nécessairement si facilement, si étroitement reliées, que ce soit dans le domaine du genre de la sexualité. Et c'est à partir de là que, d'abord, ça se diffuse. En gros, ça va mettre 10 ans, ça se diffuse dans la sphère catholique, avant tout, notamment à travers un certain nombre de nouvelles organisations ecclésiales, de type Opus Dei, Renouveau Charismatique, des mouvements de cet ordre-là, qui vont répandre une certaine manière de penser, un certain discours. Et les campagnes, donc les premières mobilisations en Europe apparaissent vers 2006-2007, donc on est en Espagne, l'opposition au gouvernement Zapatero, en Italie, la première opposition au projet de Romano Prodi contre une loi de partenariat, en Croatie, en Slovénie, surtout sur des questions d'éducation sexuelle. Ça reste cas isolé et ça explose véritablement en 2012-2013, donc c'est le grand moment de la manif pour tous qui était assez inattendu pour la plupart des observateurs, et en Croatie, c'est le référendum constitutionnel sur la définition du mariage, qui est gagnée par les conservateurs aussi.
Pourquoi ça explose à ce moment-là, David Paternotte? Pourquoi ça explose à ce moment-là?
Alors, pourquoi? C'est sans doute le temps qu'il fallait pour que ce discours se diffuse. C'est-à-dire qu'il fallait, le temps dont... Ce qu'on voit, par exemple, beaucoup...
Mais ça ne correspond pas à une forme d'instrumentalisation politique des camps conservateurs?
Ça va arriver après, c'est-à-dire que d'une part, on a une diffusion des idées qui se fait par des publications, par énormément de conférences qu'on voit se développer un peu partout, la France ou l'Italie sont des bons exemples, dans des salles paroissiales, des clubs, etc. Et progressivement, ce qu'on voit effectivement à ce moment-là, c'est comment notamment les populistes ou l'extrême droite vont trouver là un terreau intéressant et on va avoir cette fusion entre des groupes politiques et des groupes religieux. Le cas de la Russie, j'imagine que vous en avez parlé plus tôt, est assez emblématique quand Poutine, tout d'un coup, retraduit son opposition à l'Occident et au projet européen avec des termes de genre et de sexualité. Et on voit ça se passer un peu partout. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un projet qui est largement détaché de ses origines catholiques. Il y a d'ailleurs pour l'instant une guerre assez dure entre des populistes comme Salvini ou Steve Bannon et le pape François, des deux côtés. Et c'est un projet qui, aujourd'hui, est partagé par des tas d'acteurs très différents, que ce soit des acteurs politiques, j'en parlais, que ce soit certaines églises orthodoxes, avant tout en Russie, mais aussi en Bulgarie ou en Roumanie, et que ce soit, par exemple, en Amérique latine, les évangélistes.
Et du coup, est-ce qu'on a aujourd'hui un mouvement anti-genre européen ? Est-ce que tout ce monde-là, au fond, est-ce qu'il y a une internationalisation, une transnationalisation de tous ces mouvements anti-genre ?
Alors, de plus en plus, ouais. Oui. Donc, comme Agnès Nechetat l'a bien rappelé juste avant dans le cas polonais, par exemple, le cas polonais montre très bien que ce sont des choses qui existaient avant l'émergence de ces campagnes internationales. Par contre, ces acteurs nationaux qui étaient souvent assez isolés, aujourd'hui, se parlent de plus en plus et se rencontrent. L'événement à Vérone dont vous parliez tout à l'heure est un des lieux où ces gens se rencontrent, échangent des stratégies, il y en a d'autres. Et donc aujourd'hui, oui, on a une internationalisation assez importante. Mmh. On verra que les élections européennes, si, comme on s'attend, on aura une percée de groupes d'extrême droite et populistes, ce sera un autre lieu de mise en réseau d'un certain nombre de ces acteurs.
Allez, dernière réaction à Nechetat, on arrive au terme de cette émission. En guise de conclusion, Nechetat.
Ben, en guise de conclusion, je pense que pour repenser cette idée de fracture Est-Ouest, il ne faut pas faire l'économie des inégalités économiques, des inégalités politiques, des inégalités culturelles entre l'Est et l'Ouest, et aussi des effets du néolibéralisme, des effets du capitalisme, puis du néolibéralisme aussi sur les sociétés de l'Est, qui se sont diversifiées, mais où les inégalités ont explosé en l'espace de 30 ans, et que la montée des nationalismes, la montée de ces courants identitaires, etc., est absolument indissociable de cette dynamique économique.
Arthur Clash.
Oui, tout à fait.
Faut pas oublier l'économie, évidemment.
Et tout à fait, voilà. C'est ce que les années 90, justement, qui sont, pour une partie de la population russe, synonyme d'appauvrissement, où il y a même un terme en russe pour dire libéras, c'est-à-dire qu'on confond le mot libéral et, entre guillemets, pédéras. C'est-à-dire que il y a une confusion dans les esprits qui est entretenue jusqu'à aujourd'hui, sur cette liberté du marché qui a été en fait subie par une partie de la population et liée dans son esprit à une tolérance notamment par rapport à la question de l'homosexualité.
My lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story. My lady's story. Now we're all in love.
Merci beaucoup à nos invités. D'abord, David Paternotte, qui était à l'instant avec nous par téléphone. Je vais rappeler le titre de votre ouvrage, David Paternotte, Campagne anti-genre en Europe, des mobilisations contre l'égalité. C'est un ouvrage que vous avez co-dirigé, qui est paru aux presses universitaires de Lyon. On mettra évidemment les références sur le site de Culture Monde. Un grand merci, Arthur Clash, d'avoir été avec nous. Un grand merci également à Agnès Chetaille. Et je remercie les techniciens qui étaient à Bruxelles et qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. On poursuivra notre série consacrée aux droits LGBT+, demain, de l'intime aux politiques. On parlera beaucoup d'Afrique, mais pour l'heure, 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Les valeurs asiatiques, et je mets des guillemets à la formule, versus les valeurs occidentales, et je remets aussi des guillemets, c'était un débat assez animé dans les années 90. Il rebondit.
Eh oui, il faut s'attendre à voir rebondir en effet le débat sur les valeurs asiatiques qui avait surgi dans les années 90. Il avait été lancé, on s'en souvient, par Lee Kuan Yew, le dirigeant politique de la cité-état de Singapour. C'était sa réponse aux thèses de l'américain Fukuyama sur la fin de l'histoire. Non, disait le Singapourien, la démocratie libérale à l'occidentale n'est pas le dernier mot de l'histoire et elle n'est pas destinée à s'étendre à l'humanité entière du fait d'une quelconque nécessité historique. C'est un régime qui convient peut-être aux Nord-Américains et aux Européens parce qu'il est basé sur l'idée que les droits de l'individu sont imprescriptibles et les droits de l'homme universels. Mais nous autres, Asiatiques, nous avons d'autres priorités, l'harmonie et la cohésion de nos sociétés. D'autres valeurs, le respect de l'autorité et le culte des ancêtres. Nous sommes par ailleurs comme vous des pragmatiques. Nos systèmes asiatiques et les vôtres en Occident sont en concurrence et nous verrons bien dans l'avenir quel est celui qui finira par l'emporter. Alors à l'époque déjà, Amartya Sen avait été l'un des plus véhéments critiques de cette idée de valeurs asiatiques. Les cultures de l'Asie, disait-il, sont bien trop diverses et cet économiste et philosophe né en Inde avait donc polémiqué contre Lee Kuan Yew. Elles ne peuvent pas être toutes ramenées à cette forme de confucianisme, surtout cultivée en Chine, disait Amartya Sen, des valeurs asiatiques. Et pourtant, deux décennies plus tard, selon Parag Khanna, il n'y a pas photo. D'où le titre de son livre, très commenté en ce moment tant en Asie qu'aux États-Unis, « The Future is ASEAN ». Parag Khanna, né en Inde mais formé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, est l'auteur de plusieurs livres brillants consacrés à la géopolitique. Et cela ne vous étonnera pas, il est basé à Singapour, la capitale morale du fameux modèle asiatique. Les deux dernières décennies ont été les meilleures ou les pires selon l'endroit du monde où vous trouviez, écrit Parag Khanna. Tandis que l'Amérique et l'Europe, se retournant sur elles-mêmes, étaient en proie au pessimisme et au désespoir, l'Asie embrassait la mondialisation avec une confiance et un optimisme croissant. Fin de citation. Ce n'est pas seulement que la croissance est brillante dans toute l'Asie alors qu'elle s'essouffle en Occident, ce sont ce qu'il appelle les paradigmes du développement, c'est-à-dire les systèmes socioculturels en concurrence qui auraient révélé la supériorité de ceux des Asiatiques. L'avenir des sociétés, écrit-il, tiendra de plus en plus à leur capacité à s'adapter au cours du monde, et celui-ci ne dépend ni de leur degré plus ou moins élevé de démocratie, ni de la pureté de leur capitalisme.
Et alors Brice, en quoi, selon Parag Khanna, les systèmes sociopolitiques asiatiques seraient mieux préparés que ceux de l'Occident à affronter victorieusement les défis de l'avenir ?
Toutes les sociétés doivent faire des choix entre des objectifs incompatibles entre eux, dit-il. Elles doivent trouver des points d'équilibre entre des exigences contradictoires, l'ouverture au monde et la protection de leur population, la participation des citoyens et l'efficacité du gouvernement, l'individualisme et la cohésion sociale, la liberté de choix et les systèmes collectifs de protection sociale. Et ce qui satisfait les gens, ce n'est pas le respect des grands principes, mais des choses bien concrètes. Ainsi, ils veulent se sentir en sécurité dans la ville où ils habitent, être en mesure de pouvoir acheter leur logement, et pour cela, disposer d'un emploi stable, et aussi pouvoir compter sur des niveaux de revenus convenables à l'âge de la retraite. Et sur tous ces points, les pays asiatiques ont progressé de manière impressionnante, tandis que chez les peuples occidentaux, la majorité connaissait une dégradation de ses conditions de vie. La légitimité politique des élites dirigeantes repose sur les performances atteintes par leur pays sous leur responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle celle des gouvernements occidentaux est faible. Ils ne donnent pas satisfaction. Pour Parag Khanna, les trois facteurs qui expliquent le triomphe de l'Asie sont un capitalisme mixte, une gouvernance technocratique, un conservatisme sociétal. Capitalisme mixte, les gouvernements s'appuient certes sur les marchés, mais ils les pilotent. Ils favorisent par exemple des champions nationaux et ils dirigent les investissements vers des secteurs stratégiques. Gouvernance technocratique, ils mesurent en permanence le niveau de satisfaction des citoyens à travers un très grand nombre d'indicateurs, tout en surveillant de près les réseaux sociaux afin d'empêcher la propagation d'idées déstabilisantes. Conservatisme sociétal, enfin. Les régimes asiatiques ont des justices sévères, la liberté de parole y est encadrée et les innovations sociétales limitées. Par exemple, le système social de crédit mis en œuvre en Chine est considéré comme totalitaire en Occident, mais il est, paraît-il, plébiscité par les Chinois eux-mêmes.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain et dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.